c'est ce désir du monde. Voici la nuit sur la ville. En haut de la grande tour, un paon s'éploie, comme un drapeau d'azur. Et c'est le signe. Et c'est le flambeau. Ah, partons sans détour, pendant que la soif dure encore, et avant d'être résigné. Pendant que sur ce mur, l'oiseau sonore clame la détresse des prisonniers. Dans mes libres membres bouillonnent, qui s'abandonnent à mon désir.
Mireille Havet, journal 1927-1928. Page choisie par Béatrice Leca. Avec Louise Pastot. Cinquième et dernier épisode, Vita Nova. À 30 ans, Mireille Havet se laisse surprendre par la joie que procure un nouvel amour. Norma, jeune américaine d'à peine 20 ans, qu'elle se promet de rejoindre sous peu à New York. La réciprocité de ce coup de foudre et l'élan de confiance qu'il suscite s'accompagnent dans le cœur de Mireille Havet d'une lucidité extrême sur la vie qu'elle mène. Oui, sa solitude est immense. Oui, les drogues l'assassineront tôt ou tard. Oui, tout a été détruit. Cependant, du temps, il y en a encore en réserve, à consommer de toute urgence. Oublier sa vie, oublier son nom, gaver ses veines de morphine et partir au bout du monde.
Mercredi 19 septembre 1928. 51 rue Raynouard, Paris. 1h du matin. Ce cahier sera à Norma, pour Norma. En attendant que je la retrouve, que je découvre l'Amérique. J'y raconterai l'histoire et le drame de Norma, de notre connaissance 3 jours avant son départ de France et de notre amour réciproque en coup de foudre. 48 heures avant la séparation finale et matérielle et son embarquement au Havre dans la nuit de samedi à dimanche sur le Laconia. Et ma douleur et maladie d'un jour et d'une nuit au Havre, à l'hôtel Normandie. Je dirai tout. J'aime Norma avec un cœur entier de 20 ans. Malgré qu'il fût brisé et que j'en ai noté les éclats dans ce cahier même, en 1926. J'aime Norma et je crois qu'elle m'aime. Sa petite lettre de Paris et ses câbles depuis, surtout ses câbles, en font foi. Et Norma a 20 ans. Comme mon cœur rafraîchi par elle et qui l'aime d'un amour, d'un élan qui ont son âge. Je suis seule chez moi. Je n'ai pas un sou et ne sais ce que je vais devenir d'ici mon départ pour l'Amérique. Et malgré cela, j'ai la joie et la confiance au cœur. Et j'ai retrouvé mon optimisme perdu depuis bientôt 4 ans. J'aime Norma. Qu'elle se repose en paix et confiance cette nuit sur l'océan, dont chaque vague la rapproche terriblement vite et lentement à la fois de cette terre américaine où elle et sa famille représentent l'aristocratie de chez nous et où je vais aller la rejoindre au plus tard dans 2 mois. Je parlerai de Norma comme il sied, comme elle le mérite et comme je le souhaite. C'est pourquoi je ne commencerai pas ce soir. Son nom suffit et à moi, il révélera toujours tout l'état de bonheur amoureux et fasciné par elle où je vis maintenant et où, je crois, elle vit aussi. J'aime Norma. J'ai son dernier sans fil de ce soir suspendu au mur, à côté de sa petite photographie et, sous mon oreiller, chaque nuit, l'étui à cigarette en argent ciselé, son étui qu'elle m'a donné en échange du mien perdu dans le taxi notre dernier soir. Mardi 2 octobre 1928, le mois de mon anniversaire, le mois de mes 30 ans. Et cependant, toutes les femmes que je vois continuent de me croire plus jeune qu'elles et de me traiter comme un enfant. Drôle d'enfant sans famille, qui n'a pour famille que l'amour des femmes et leurs caresses incestueuses, et pour fortune la fortune publique, celle du hasard, celle du jeu perpétuel, souvent tragique et merveilleux, de la combinaison incroyable et qui tient du miracle qu'est ma vie, consacrée à l'amour justement, à la poésie parfois, mais jamais à quoi que ce soit qui me rapporte de l'argent, jamais basée sur rien de matériel ni de raisonnable. Ma vie n'est pas raisonnable. Elle est dangereuse extrêmement, sans que je m'en rende toujours compte, bien que je sois la plupart du temps aux limites extrêmes de la catastrophe. Mais, décidément, je suis trop lasse et me couche trop à l'aube, ces nuits-ci, pour écrire proprement ou avec quelque précision. Qu'il me suffise de déclarer, ce soir, que je suis amoureuse d'Alice et que son désir pour moi, si violemment sensuel, si amical et flatteur, me plaît infiniment et me rend très heureuse. Jeudi 1er novembre 1928, Paris. Depuis 3 jours, mon intoxication est beaucoup plus grave et se complique de symptômes qui n'avaient jusque-là jamais existé. 1. Je suis picomane et je me pique toutes les heures ou plus, sans arrêt, par ennui, par malaise, par tristesse, par oisiveté, par rage, désespoir, etc. Je me pique et je fais, conséquence de la picomanie, 1 demi-gramme d'héroïne par jour, ce qui est moins gai. 2. Je suis cocaïnomane à l'excès. 1 gramme presque par soirée et par voie nasale, et injecté aussi. Résultat, demi-folie. Impossible de manger, de sortir, de lire, de téléphoner, d'écrire à Norma, de vivre, enfin. Je n'ai jamais de bien et toujours du mal. Et alors, moralement, mon état d'horreur, de honte de moi, de désespoir, d'hébétude, d'affolement, de sournoiserie, de lâcheté, enfin, d'infamie et de déchéance et de décomposition, cette fois mortelle, indéniable et que je sais. Halte là. Et pourquoi? C'est inouï. Ou la mort, ou la vie. Mercredi 14 novembre 1928, Strasbourg. Je ne suis pas partie ce soir pour l'Amérique, C'est entendu, mais je partirai. On peut rigoler, se moquer de moi, ne pas y croire. Et encore, qui donc part toujours le jour qu'il croyait et avait convenu ? Même pour l'Amérique, les retards sont possibles. Même pour l'amour et son rendez-vous, il arrive de manquer et être retenu loin de celui que l'on aime plus que tout, sans pour cela l'en aimer moins. Au contraire, les difficultés ont toujours aiguisé et exalté la passion. Je viendrai, Norma, coûte que coûte. Confiance, mon petit. Ton visage n'est pas effacé et je vis. Samedi 24 novembre 1928, 2h du matin. Dans cette seringue, il y a au moins l'oubli de la douleur du monde, et vous voudriez, vous autres qui ne souffrez pas et qui, à 25 ans, n'aviez pas tout eu et tout perdu pour toujours, vous voudriez que je la brise, que j'éparpille et jette son contenu, que je rompe dans un beau geste de fausse bravoure qui n'a jamais trouvé sa récompense car je l'ai fait déjà deux fois, à deux moments de naïveté, de peur, d'amour peut-être aussi, tout sentiment qui, en moi comme dans Mal d'Aurore, ne peuvent plus exister, n'ont même plus leurs racines ni leur sillage. Oh, moi qu'animait une poésie et un bonheur de vivre si fort, que j'aurais pu recréer le monde, que j'étais née sur cette terre de douleur et de honte et d'immondices incalculables pour le recréer, dans mes livres destinés à éclairer et aider fraternellement les autres générations, comme si quelqu'un écoutait quelque chose, ou pouvait jamais être enseigné par l'expérience, devenu le phare de l'intelligence d'un autre. Vous voudriez que ce beau geste stupide et enfantin que j'ai déjà exécuté deux fois dans un désert d'indifférence et de douleur ironique et incommunicable, je le recommence. Et que je rompe avec ce pacte de Satan, peut-être qui a troublé mon sang et vendu mon âme aux forces troubles et magiques et malsaines de l'existence pour tout le reste du temps éternel, sans doute. Je le sais et je le comprends aussi bien que vous, car je ne suis pas plus bête ni plus aveugle si je suis devenue par contre la plus seule et la plus misérable. Ce pacte qui me donne l'oubli de la mort que grâce à lui j'évite et je recule, puisque le suicide est si mal considéré et défendu par toutes les religions, paraît-il. Qui me donne du moins un sommeil appesanti de bête, de pierre, d'inhumanité et d'insensibilité que, sans cette seringue et son contenu magique et maudit, je ne connaîtrai jamais plus. Jamais plus. Car j'ai perdu la paix une fois pour toutes, comme la faculté de l'amour, de l'illusion, de l'espérance, et je sais très bien quand ces deuils et ces pertes successives me sont survenus, accablant et vidant mon âme davantage de tout ce qu'elle avait de mystérieux et de divin et d'humain et d'enfantin encore. Mais si Dieu a créé la douleur, il a créé du moins avec elle l'oubli. Et c'est cet oubli qui n'a pas de prix qui vaut pour nous, pour vous. Mes pauvres frères et sœurs frappés comme moi en plein cœur par cette flèche damnée. Plus que le pain, la lumière, l'air respirable, la fortune que nous n'aurons jamais plus. Quand la douleur de mes deuils, de mon désert, de mon infamie, de ma solitude terrestre fait craquer mon organisme, que mon âme se fend, que mes yeux sont brûlés et ensanglantés par les pleurs, j'ai du moins ce recours unique, le seul, entendez-moi, qui me reste désormais et toujours, de ne plus grimacer et de me pencher sur cette seringue, cette eau du robinet que je ne prends même plus la peine de bouillir, car mon corps est déjà zébré par les croix, ces zébrures livides, cette légion d'honneur et d'horreur des abcès, et cette poudre blanche que j'y mélange avec un apaisement et une joie satanique, et qui, je le répète, n'a pas de prix que l'on vous vend derrière le dos de la police ignare, et qui représente bien votre dureté abêtie et votre ignorance de garde-chiourme abruti de méchanceté et de vanité dans ce bien-être matériel de vos fortunes que nous avons depuis longtemps sacrifié, les nôtres, donnés à pleine main, à chaque heure que cela fut nécessaire pour ne pas nous tuer et nous défigurer d'une balle en pleine figure comme rançon. En échange de ce baume inégalable de la morphine subtile et apaisante, plus rapide, plus sournoise, plus violente que l'opium auquel, du temps de ma jeunesse prodige comme ma vieillesse de maintenant et mon malheur absolu de vivre, j'ai aussi goûté. Ô morphine souveraine, tu es mon seul secours, mon seul refuge, mon seul appui, mon seul courage et ma seule vérité, ma seule richesse et mon seul amour et mon seul génie, car tout le reste ci-dessus énoncé, je l'ai perdu avec certains visages et certaines années défuntes, comme moi-même, pour toujours. Ô morphine, qui donc s'occuperait de moi? Qui donc s'immiscerait dans ma vie de supplices et d'injures misérables, sinon toi, puisque tout et tous m'ont depuis longtemps abandonné? Ô morphine, tu es mon secret, mon amie la plus folle, mon ennemie la plus sûre et ma sauvegarde, puisqu'il paraît qu'il faut vivre malgré ses blessures et ses amputations. Mais qui donc peut le comprendre ou le comprendrait loyalement et férocement, comme je l'avoue cette nuit où, dans l'excès de ma solitude et de mon impuissance, l'amertume de vivre et la rancœur des souvenirs font éclater ma poitrine et ronge mes paupières comme des vers. Dans ma chambre, personne ne vient plus me voir ni ne songe à moi. Dans la chambre mortuaire de cette maison qui connut tant de joie, d'amitié apparente, de solidarité plus que nulle part ailleurs et de rumeurs joyeuses, et où ma mère, cependant clairvoyante et martyre comme moi, mais dans un autre sens, et le sens encore plus tragiquement humain et cruel de sa vie, a tant souffert de mes vices et de ma destinée déchue et brisée qu'elle devinait, et où j'endure à mon tour des heures et des journées de silence et de solitude absolue, d'une désolation et d'une douleur inexprimables dans cette chambre où je me suis avouée et déclarée vaincue, alors que je venais d'avoir l'air peut-être le plus triomphant. Je n'ai plus que toi, morphine. Cette seringue pâle et transparente où je me reflète un instant avec l'injection délivrante qui, dans mes membres et jusqu'à mon cœur, dissout et endort la douleur de vivre. Je m'abîme en toi alors que, sans jeu de mots mais le plus exactement du monde, tu m'abîmes corps et âme depuis 2 ans et pour toujours. jusqu'à la mort qui ne peut réserver comme fruit de ma lutte et de mes efforts. Si le système de la religion est juste et dévoile dans ses dogmes notre entière destinée et évolution juridique, selon Dieu et les trompettes du jugement, que l'enfer absolu comme suite logique et dénouement de celui-ci que j'ai commencé déjà sur terre et qui, maintenant, ne finira plus. Moi, je suis fini où l'enfer commence. Mais la morphine est un palliatif, un anesthésique merveilleux. Je doute que son égal existe dans l'autre monde, avec la permission de Dieu ou des démons. Mais ici, du moins, tant que mon cœur assez tenace et solide dans mon corps m'y retiendra, profitons, employons-la, payons-la d'un prix inestimable et qui ne peut se comparer ni discuter une seconde puisque, grâce à cette seringue, à cette simple et légère piqûre dans mon sang, je connais en quelques secondes l'oubli de la douleur du monde, l'oubli de ma vie, l'oubli de mon nom. Amen. En mer, Noël. Paquebot de Grasse, proche des bancs de Terre-Neuve. Matin du mardi 25 décembre 1928. J'adore ces réveils en mer. Il serait tout de même trop injuste de ne pas le noter et de ne me plaindre au cours de ce merveilleux voyage allant vers Norma qui m'aime avec un cœur bouillant de jeunesse et de confiance en moi, que d'avoir quitté René, qui ne m'aimait pas autant quand même, et Dieu merci pour moi, n'a pas su dire les paroles capables de me retenir. Je suis partie. La vie est belle. La vie est belle et l'aventure s'ouvre devant moi mieux que jamais, avec ce bateau blanc qui me transporte, où je dors et vis depuis mercredi soir. Et l'Amérique, New York, ville où m'attend l'autre bien-aimé du Nouveau Monde, continent neuf où je vais tenter ma chance pour la première fois de mon existence humaine, et comme jamais.
Mireille Havet meurt en 1932 dans un sanatorium en Suisse, épuisée par la tuberculose et la drogue, épuisée par la misère et la fumée des rêves. Elle a 34 ans. C'était Mireille Havet, journal, 1927-1928. Page choisie par Béatrice Leca. Cinquième et dernier épisode. Avec Louise Pastot. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Déborah Dagobert. Assistant, Lélio Ploton. Réalisation, Michel Sidoroff. Le journal de Mireille Havet est publié aux éditions Claire Paulhan.